podcasts de Radio Vatican.
Au Soudan du Sud, la famine a été officiellement déclarée le 20 février et touche déjà 100 000 personnes selon l'ONU. Une situation de sécheresse combinée à une guerre civile qui fait rage depuis l'indépendance du pays en 2011. Ces affrontements très violents opposent les groupes ethniques liés au président Salva Kiir aux partisans de son rival, l'ancien vice-président Riek Machar. Une situation qui interpelle le pape François lors de sa visite à la paroisse anglicane de Rome fin février. Le Saint-Père avait évoqué un projet de voyage au Soudan du Sud avec le primat anglican Justin Welby. Ce vendredi 10 mars, le président Soudanais a appelé à une journée nationale de prière pour la paix, un appel qualifié d'hypocrite par l'évêque auxiliaire de Djouba, un appel bien trop tardif, estime Judith Pereira, la directrice exécutive du projet Solidarité avec le Sud-Soudan. Cette religieuse espagnole nous explique ce projet qu'elle porte sur place avec sa congrégation Jésus-Marie et témoigne de la situation dramatique des Sud-Soudanais.
Le projet s'appelle Solidarité con Sud-Soudan. Le nom a été mis parce que c'est un projet intercongrégationnel. Donc la solidarité, c'est le charisme, le noyau de tous les charismes qui veulent montrer la bonté de Dieu aux hommes et servir au peuple, il est surgi quand les évêques du Sud-Soudan sont venus à Rome pour faire un appel aux religieux supérieurs et supérieurs généraux d'y aller pour établir des écoles et des hôpitaux. Et ils se sont mis ensemble et ils ont décidé d'y aller ensemble au Sud-Soudan voir. Bon, ils ont vu la dévastation du pays, il n'y avait rien. Et ils ont décidé, parce qu'aucune congrégation ne pouvait aller seule, c'était trop, ils ont décidé d'y aller ensemble, à former un nouveau paradigme de vie religieuse. Donc, du commencement, ils ont établi les gouvernements avec des personnes de toutes les congrégations, une direction mixte aussi, et des communautés au Sud-Soudan, avec des religieuses, des religieux, des prêtres, des frères, des différentes congrégations, différentes origines, pour faire la capacitation de la population dans divers sens. D'un côté, c'est l'accompagnement aux évêques, accompagnement pastoral, former des agents de pastoral, coordinateurs des diocèses nationaux. D'un autre côté, c'était la formation des formateurs, dans le sens former des professeurs, et former des instituteurs et aussi des infirmières et sages-femmes. Donc, ils ont mis sur le terrain des écoles de formation supérieure pour former infirmières, sages-femmes et instituteurs. Après, parce qu'ils devaient manger, non? Donc, ils ont pu développer un grand projet agricole qui forme la population locale, pas dans le sens académique, mais dans le sens pratique.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez déjà les fruits de ce projet? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donne à la population dans ce contexte de guerre et de conflit?
Oui, on voit des fruits. Au niveau des professeurs, nous avons formé plus de 1000 professeurs. Quelques-unes dans des programmes institutionnels ou même des professeurs, des formations continues de professeurs, parce qu'il n'y a pas de professeurs pour les écoles. Donc, c'est un fruit évident, même dans des endroits difficiles comme les montagnes Nuba ou des endroits un peu compliqués. Et nous avons formé autour de 300 sages-femmes et infirmières avec des certificats nationaux, avec tous les requis du pays, non? Et au niveau de la ferme, nous employons tous les jours autour de 40 à 80 gens locaux qui sont formés dans l'agriculture normale, ce qu'ils normalement auraient fait, mais avec des nouvelles techniques soutenables. Bon. Pour la pastorale, c'est un peu plus différent, un peu plus lourd, parce que les conflits continuent, les gens sont blessés, traumatisés. On fait beaucoup d'ateliers de peace building, construction de la paix, des trauma healing, guérison des traumas. Donc c'est plus lent, on ne peut pas évaluer les résultats. Beaucoup de personnes sont passées par là, pour commencer avec des membres de l'église, religieux, prêtres. Et ils ont formé des comités de catéchèses dans chaque diocèse. Ils travaillent à ce niveau avec les coordinateurs nationaux des pastoraux. Nos projets appartiennent aux évêques, ce n'est pas nous, parce que nous avons un ensemble de congrégations, n'est rien, mais on est au service de l'église dans ce sens.
Alors là, vous en revenez du Soudan du Sud. Et qu'est-ce que vous avez vu, entre guillemets, et surtout comment est-ce que la population aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des Sud-Soudanais?
Ouf, c'est difficile. Je viens d'y arriver samedi passé. J'étais dans les endroits où nous sommes. C'est différent dans chaque endroit. Ce qu'on a vu, c'est que les gens souffrent, sont des victimes, même de l'armée, même des rebelles, mais ils sont toujours des victimes. Il semble que c'est une guerre de pouvoir, ce n'est pas une guerre tribale. Et les tribus ne s'haïssent entre elles, ce n'est pas vrai. Mais c'était provoquée par les politiciens, les gouvernements. C'est un peu difficile. Moi, je viens choquée. J'ai habité en Afrique plusieurs années, mais jamais je vis de la pauvreté comme au Sud-Soudan. Les enfants sont normalement affamés, tu les vois, ils ont cassé le corps, les symptômes très clairs, même dans la rue, partout. Tout le monde est mince. Et l'inflation est terrible pour acheter la nourriture, même pour nous c'est très cher, donc pour les gens c'est inaccessible. Je suis allée à Diambio. À Diambio, il y a toujours des conflits. Le jour que j'ai rentré, 3 personnes ont été tuées à côté de nous. Même il y a quelques 2 années, une de nos sœurs de communauté a été violée et c'était un choc pour nous. Mais les femmes subissent toujours la violence de la guerre, toujours. Les filles, les enfants, les femmes. À Rimense, dont nous avons une communauté qui est une communauté agricole, nous sommes entourés de plus de 5300 personnes réfugiées et des pays qui ont laissé leur foyer parce qu'ils avaient trop dispersé pour être ensemble, pour faire face à la peur, parce qu'ils craignent d'être attaqués par l'armée. N'importe de quel signe, ils sont attaqués. Nous avons perdu deux travailleurs qui ont été brutalement tués et brûlés. Donc les gens ont peur. On voit la peur. Les conditions sont indescriptible. Tout le monde est par terre, dans la boue, dans le... Bon, il n'y a pas de maison, ce sont des tentes avec des arches, des bâtons, avec les palmes, une plastique qui couvre quand c'est possible. Et ce camp-là n'est pas assisté d'aucune NGO constamment. Donc, on doit pourvoir tous les enfants. Il y a plus de 1500 enfants, aux personnes aînées, mais chaque jour, il y a quelqu'un qui meurt. Et ça, c'est terrible.
Il y en a aussi beaucoup qui fuient le pays, qui passent les frontières pour fuir la famine aussi, en plus des violences, parce qu'il y a aussi la question de la sécheresse.
Il y a la sécheresse dans certains endroits. Maintenant, il va y avoir les cas contraires. Les pluies vont commencer, donc tout va être inondé. Les gens ne pourront pas se déplacer. Donc c'est un autre problème. Et il y a des déplacés externes qui fuient à l'Ouganda, au Kenya, à l'Éthiopie. Tout le monde qui puisse fuir. Mais il y a aussi les déplacés internes, les gens qui n'ont pas le pouvoir de s'en aller. Donc, ils se mettent ensemble dans les camps, improvisés, spontanés ou non. Les gens, c'est comme quand on est dans un camp, c'est comme la vie s'arrête. On ne continue pas avec la vie normale. Et ça, c'est terrible. Même si on dépend de l'assistance extérieure, on ne peut pas continuer avec la vie normale. Non? Il y a très peu d'organisations, presque seulement les congrégations religieuses qui continuent à faire le développement dans les sens d'école, hôpitaux, parce que tout le reste ne font que l'émergence. Emergencie, non.
Est-ce qu'il y a un dialogue avec les autorités, avec le gouvernement, pour pouvoir avancer dans votre projet et essayer de trouver un moyen d'aider ces populations avec peut-être des infrastructures, trouver un moyen de dialogue?
Les dialogues, il y en a. Surtout pour demander de l'assistance aux gens qui ne l'ont pas. Non? Mais c'est très difficile parce que les gouverneurs, les politiciens changent selon les ordres du gouvernement. Ce n'est pas évident. On voit que le gouvernement n'a pas de moyens disponibles pour les infrastructures, pour aider les gens, même pour payer les salaires. Beaucoup de gens n'ont pas reçu le salaire. Moi, j'ai entendu dire, non, et je le crois, qu'il y a des gens qui ont commis suicide parce qu'ils ont vu leurs enfants mourir de faim, non? C'était des gens qui auraient dû avoir un salaire de l'État, mais là, l'État n'a pas d'argent. Tout est investi dans les dépenses militaires. Donc, c'est comme si on ne se soucie que du pouvoir, de la guerre, mais le peuple mis de côté. Non? Et c'est terrible.
Alors, le président Salva Kiir a appelé à prier pour la paix. Mm-hmm. Est-ce que y a un espoir pour que ce conflit se calme, se cesse?
Les gens sont trop épuisés et même désespérés. Parce que c'est très tard cet appel. Non? Quand les gens voient la volonté de prier, mais en même temps ils souffrent de répressalies, ils sont réprimés dans beaucoup, ils ne sont pas assistés, on ne sent pas ces proximités, ça les devient trop loin, trop lointain, un appel lointain. On espère que ça puisse se faire, mais c'est un peu ambigu l'appel. Maintenant on prie, mais on fait la guerre, on se réarme. Donc les gens, je ne sais pas s'ils croient à cet appel-là. Si on parle d'un dialogue, c'est plus facile. Parce que c'est un autre niveau. Mais l'Église a fait des appels, il continuera à faire des appels. Mais quand l'appel vient d'un politicien, les gens ne peuvent pas faire confiance complètement, c'est un peu difficile.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.